Petit bonhomme, chapitre 13. Changement de couleur et d'état. À la date du 16 novembre 1885, y avait-il en Irlande, que disons-nous, dans toutes les îles britanniques, dans toute l'Europe, dans l'univers entier, un lieu quelconque qui contint une plus grande somme de bonheur que le bazar des petites poches, sous la raison sociale Little Boy and Co. Nous nous refusons à le croire, à moins que cet endroit ne fût situé dans le meilleur coin du paradis. Sissi occupait la principale chambre de la maison. Petit bonhomme se tenait à son chevet. Elle venait de reconnaître en lui l'enfant qui s'était glissé par un trou de souris, hors du taudis de la harde. Maintenant, un garçon florissant et vigoureux. Et elle, qui, à l'époque où ils s'étaient séparés l'un de l'autre, comptait 7 ans à peine, en avait aujourd'hui 18. Mais, fatiguée par le travail, brisée par les privations, redeviendrait-elle la belle jeune fille qu'elle aurait été si elle n'eût vécu au milieu de la débilitante atmosphère des fabriques? Voilà près de 11 ans que tous deux ne s'étaient revus. Et cependant, petit bonhomme avait reconnu Sissi, rien qu'à sa voix, et plus sûrement qu'il ne l'eût reconnu à son visage. De son côté, Sissi retrouvait dans son cœur tout ce qu'elle avait conservé du souvenir de l'enfant. C'est de ces choses qu'ils parlaient, l'un et l'autre, se tenant les mains, se regardant dans ce passé comme dans le miroir de leur misère. Près d'eux, Kate ne pouvait cacher son attendrissement. Quant à Bob, sa joie se traduisait par des interjections étonnantes auxquelles Burke répondait par des demi « ouah, ouah », non moins extraordinaires. Monsieur O'Brien, très touché, assistait à cet entretien. Et sans doute, le commis, Monsieur Balfour, aurait partagé l'émotion générale s'il n'eût été à son bureau, plongé dans les comptes de la maison Little Boy and Co. Tous avaient si souvent entendu parler de Sissi, autant que de la famille McCarthy, qu'ils n'avaient plus à faire sa connaissance. Pour eux, c'était une sœur aînée de petit bonhomme qui revenait au logis, et il semblait qu'elle ne l'eût quitté que de la veille. Gwip manquait seul à cette scène, et l'on peut affirmer que, quoiqu'il ne l'eût jamais vue, il aurait reconnu la jeune fille de son boy du premier coup d'œil. D'ailleurs, le Vulcan ne devait pas tarder à être signalé sur les bases du canal Saint-Georges. La famille serait alors au complet. Quant à ce qu'avait été la vie de la fillette, on le devine, la vie de tous ces pauvres enfants de l'Irlande. 6 mois après la fuite de petit bonhomme, la Harde étant morte dans un accès d'ivresse, il avait fallu ramener Sissi à la maison de charité de Donegal, où elle demeura 2 années encore. Mais on ne pouvait l'y garder indéfiniment. Il y avait tant d'autres malheureux qui attendaient. Elle avait près de 9 ans alors, et à 9 ans, il faut savoir se suffire. Si on ne peut entrer en service, devenir la maid, dont le salaire se réduit souvent au logement et à la nourriture, est-ce qu'il n'y a pas du travail dans les fabriques? On envoya donc Sissi à Belfast, où les filatures occupent un monde d'ouvriers. Là, elle vécut de quelques pence quotidiennement gagnées, au milieu des poussières malsaines du lin, rudoyée, frappée, n'ayant personne pour la défendre. Néanmoins, toujours bonne, douce, serviable, et d'ailleurs, déjà faite aux brutalités de l'existence. À cet état de choses, Sissi ne voyait aucune amélioration possible. C'était un abîme où elle s'engouffrait. Et au moment où elle doutait que personne pût jamais l'en retirer, voilà qu'une main venait de la saisir, la main du petit qui lui devait ses premières caresses, maintenant le chef d'une maison de commerce. Oui, il l'avait soustraite à cet enfer de Belfast, et elle se trouvait chez lui. Chez lui, où elle allait être la dame de l'établissement. Oui, la dame, il le répétait, et non la servante. Elle, une servante? Est-ce que Kate l'aurait supportée? Est-ce que Bob lui aurait laissé faire son ouvrage? Est-ce que petit bonhomme l'eût permis? « Ainsi tu veux me garder ? » dit-elle. « Si je le veux, si, si. Mais au moins je travaillerai de manière à ne point être à ta charge. » « Oui, si, si. Et alors, que ferais-je ? » « Rien, si, si. » Et il n'y avait pas à sortir de là. La vérité est que, 8 jours plus tard, et cela sur sa volonté formelle, Sissi était installée derrière le comptoir, après s'être mise au courant de la vente. Et, ma foi, ce fut un attrait de plus pour la clientèle, cette gracieuse jeune fille, déjà toute revivifiée par sa nouvelle existence, et douée d'une physionomie si aimable, si intelligente, comme il convenait à la patronne de Little Boy & Co. Un des plus vifs désirs de Sissi, c'était de voir apparaître sur le seuil de la porte le premier chauffeur du Vulcan. Elle connaissait la conduite de Gwip pendant les années de la Wagged School. Elle savait qu'il lui avait succédé dans ses fonctions de protectrice de l'enfant, échappé aux brutalités de la Harde. Ce qu'elle avait fait pour défendre Petit Bonhomme contre l'horrible mégère. Gwip l'avait fait pour le défendre contre Carker et sa bande. Et puis, sans le dévouement de ce brave garçon, le pauvre petit eût péri pendant l'incendie de l'école. Le premier chauffeur pouvait donc compter sur un bon accueil à son retour. Mais le voyage fut allongé cette fois par des nécessités commerciales, et l'année 1886 s'acheva avant que le Vulcan eût rallié les parages de la mer d'Irlande. Du reste, lorsque la chance s'en mêle, tout concourt au succès. L'inventaire, établi au 31 décembre, donna des résultats supérieurs aux précédents. Plus de 2000 livres, telle était à cette époque l'avoir de la maison des petites poches, libre de toute dette, ce qui fut reconnu exact par M. O'Brien. L'honnête négociant ne put que féliciter le jeune patron, en lui recommandant de toujours agir avec une extrême prudence. Il est souvent plus difficile de conserver son bien qu'il n'a été difficile de l'acquérir, dit-il en lui rendant l'acte d'inventaire. « Vous avez raison, répondit Petit Bonhomme, et croyez, monsieur O'Brien, que je ne me laisserai pas entraîner. Toutefois, je regrette que l'argent déposé à la Banque d'Irlande n'est pas un emploi plus lucratif. C'est de l'argent qui dort, et lorsqu'on dort, on ne travaille pas. « Non, mon garçon, on se repose, et le repos est aussi nécessaire à l'argent qu'à l'homme. Et pourtant, monsieur O'Brien, si quelque bonne occasion se présentait, il ne suffirait pas qu'elle fût bonne, il faudrait qu'elle fût excellente. » D'accord. Et dans ce cas, j'en suis sûr, vous seriez le premier à me conseiller. D'en profiter ? Certainement, mon garçon, à la condition que cela rentra dans le genre de tes affaires. C'est ainsi que je le comprends, monsieur O'Brien, et l'idée ne me viendra jamais d'aller courir des risques dans des opérations où je n'entends rien. Mais, tout en agissant avec prudence, on peut chercher à développer son commerce. En de telles conditions, je serais malvenu à ne point approuver, mon garçon. Et si j'ai vendu quelque affaire de toute sécurité, oui, peut-être. Enfin, nous verrons. » Et dans sa sagesse, l'ancien négociant ne voulait pas s'engager davantage. Une date à mentionner entre toutes. Une date qui méritait d'être marquée d'une croix au crayon rouge sur le calendrier du bazar des petites poches. Ce fut celle du 23 février. Ce jour-là, Bob, grimpé au haut d'une échelle, au fond du magasin des jouets, faillit en dégringoler quand il s'entendit héler de cette sorte. « Oh ! Des barres de perroquet ! Oh ! » !»« Gwip ! » s'écria Bob en se laissant glisser comme un gamin le long d'une rampe d'escalier. « Moi-même, Anko. Petit bonhomme va bien, mon mousse ? Kate va bien ? Monsieur O'Brien va bien ? Il me semble que je n'ai oublié personne. »« Personne ? Et moi, Gwip ? » Mais qui venait de prononcer ces paroles ? Une jeune fille, rayonnante de joie, qui s'avança vers le premier chauffeur du Vulcan et lui appliqua sans façon un bon baiser sur chaque joue. « Plaît-il ? » s'écria Grip, tout déconcerté. « Mademoiselle, je ne vous connais pas. Comment ? V'là qu'on embrasse ici les gens sans les connaître ? » « Alors, je vais recommencer jusqu'à ce que nous ayons fait connaissance. »« Mais c'est Sissi, Grip ! Sissi ! Sissi !» répétait Bob en éclatant de rire. Petit bonhomme et Kate venaient d'entrer. Or, voilà que ce diable de Grip, décidément très malin, ne voulut rien comprendre à l'explication qu'on lui donna, tant qu'il n'eut pas rendu les baisers de la demoiselle à la demoiselle. Par Saint Patrick, que Sissi lui parut charmante, fraîche, épanouie. Et comme il avait rapporté d'Amérique un joli nécessaire de voyage pour homme, avec tire-bottes, rasoir et savonnette, en vue de l'avenir de son boy, il soutint que c'était pour l'offrir à Sissi qu'il l'avait acheté, qu'il avait le pressentiment de la retrouver au bazar de Little Boy. Et Sissi fut contrainte d'accepter son cadeau, ce dont le véritable destinataire ne se montra point formalisé. Que de bonnes journées s'envolaient à présent dans le magasin de Bedford Street. Quand il n'était pas retenu à bord, Grip n'en démarrait plus, suivant une de ses expressions. Évidemment, il y avait au comptoir des petites poches une attraction, disons un aimant dont l'influence se faisait sentir jusqu'au dock, et qui le retenait près de Sissi, après l'avoir attiré. Que voulez-vous ? Il est difficile de résister à ces lois de la nature. Petit bonhomme n'était pas sans l'avoir remarqué. N'est-ce pas qu'elle est gentille, ma grande sœur ? Dit-il un jour à Grip. Ta grande sœur, mon boy ? Mais elle ne serait pas gentille qu'elle le serait tout de même. Elle serait laide qu'elle ne le serait pas. Elle serait méchante. Méchante ? Sissi ? Oh, Grip ! Oui, c'est bête ce que je dis. C'est parce que je sais pas m'exprimer. Mais si je savais m'exprimer... Il s'exprimait très bien, au contraire. Du moins à ce que pensait Kate. Et 3 semaines ne s'étaient pas écoulées depuis le retour de Grip qu'elle disait à petit bonhomme. Notre Grip, c'est comme les animaux qui muent. De noir qu'il était... Il est en train de reprendre sa couleur naturelle, sa couleur blanche, et je ne crois pas qu'il reste longtemps à bord du Vulcan. C'était aussi l'avis de Monsieur O'Brien. Néanmoins, le 15 mars, lorsque le Vulcan appareilla pour l'Amérique, son premier chauffeur, que toute la famille avait accompagné jusqu'au port, était à son poste. Est-ce que... Il le prétendait du moins. Le Vulcan n'aurait pu se passer de lui ? Quand il revint le 13 mai, après 7 semaines d'absence, il semblait que son changement de couleur fût plus accentué. Certes, on lui fit le même excellent accueil. Petit bonhomme, Kate, Bob le pressèrent entre leurs bras. Mais il ne fut pas aussi démonstratif en répondant à leur étreinte, et il se contenta de mettre un seul baiser sur la joue droite de Sissi, qui, d'ailleurs, n'en avait déposé qu'un seul sur sa joue gauche. Que signifiait cette réserve ? Grip devenu plus grave, Sissi devenue plus sérieuse, lorsqu'ils se trouvaient en face l'un de l'autre, cela introduisait une certaine gêne dans les réunions du soir. Et à l'heure où Grip se retirait pour retourner à bord, lorsque petit bonhomme lui disait « À demain, mon bon Grip !» il répondait le plus souvent « Non, demain, il y a de l'ouvrage pressé dans la chaufferie. Ça me sera impossible. » Et le lendemain, le bon Grip revenait exactement comme la veille, et même une heure plus tôt. Et phénomène extraordinaire, il est certain que sa peau devenait plus blanche de jour en jour. On pensera sans doute que Grip se trouvait dans un état psychologique convenable pour accepter les propositions relatives à l'abandon de son métier de chauffeur, et à son entrée, comme associé, dans la maison Little Boy & Co. C'était l'avis de petit bonhomme, mais il se garda bien de pressentir Grip à ce sujet. Mieux valait le laisser venir. Et c'est un peu ce qui arriva vers le commencement du mois de juin. « Ça va toujours, les affaires ?» avait demandé Grip. « Tu peux en juger ?» répondit Petit Bonhomme. « Nos magasins ne désemplissent pas. » « Oui, il y a du monde. »« Beaucoup, Grip, et surtout depuis que Sissi est installée au comptoir. » « Ça ne m'étonne pas, mon boy. Je ne comprends pas que dans tout Dublin, et même que dans toute l'Irlande, on veuille acheter n'importe quoi qui ne soit pas vendu par elle. » « Le fait est qu'il serait difficile d'être servi par une jeune fille plus aimable. »« Et plus... » répliqua Grip, qui ne parvint pas à trouver un comparatif digne de Sissi. « Et intelligente !» ajouta Petit Bonhomme. « Ainsi, ça va !» reprit Grip. « Je te l'ai dit !»« Et Monsieur Balfour ?»« Monsieur Balfour également !» « Ce n'est pas de sa santé que je parle, » répondit Grip un peu vivement peut-être. « Qu'est-ce que ça me fait, la santé de M. Balfour ?»« Mais cela me fait quelque chose, Grip. Il nous est très utile, M. Balfour. C'est un excellent comptable. »« Et il s'y entend à sa besogne ?»« Parfaitement. »« Je crois qu'il est un peu vieux. »« Non, il n'y paraît pas. »« Et ce « semblait dire que M. Balfour ne tarderait pas à atteindre les limites de l'extrême vieillesse. La conversation en resta là. Et lorsque Petit Bonhomme crut devoir en rapporter les termes, cela fit sourire la bonne Kate et M. O'Brien. Jusqu'à ce gamin de Bob qui s'en mêlait, et qui, 5 ou 6 jours après, disait à Grip « Est-ce que le volcan ne va pas bientôt repartir ?» « On en parle, à ce qui paraît, » répliqua Grip, dont le front se couvrit de nuages, comme la mer par une brise de sud-ouest. « Et alors ?» reprit Anko. « Tu vas aller rallumer la chaudière rien qu'en la regardant ?» Le fait est que les yeux du premier chauffeur étincelaient. Mais cela tenait sans doute à ce que Sissi traversait le magasin, gracieuse et souriante, s'arrêtant parfois pour dire « Grip !» « Voudriez-vous m'atteindre cette boîte de chocolat? Je ne suis pas assez grande. » Et Grip atteignait la boîte. « Ou bien, voudriez-vous me descendre ce pain de sucre? Je ne suis pas assez forte. » Et Grip descendait le pain. « Est-ce qu'il sera long ton voyage ?» demanda Bob, lequel, avec son air futé et ses yeux en coulisses, semblait se moquer de son ami Grip. « Très long que je pense. » répondit le chauffeur en secouant la tête. « Au moins 4 à 5 semaines. »« Bah, 5 semaines, c'est vite envolé. J'ai cru que tu allais me dire 5 mois. »« 5 mois? Pourquoi pas 5 ans ?» s'écria Grip, bouleversé, comme le serait un pauvre diable qui aurait attrapé 5 ans de prison. « Alors, tu es bien heureux, Grip ?»« Dame, qu'est-ce que tu veux que je sois ?»« Oui ?» « Je suis. »« Tu es une grande bête. » Et là-dessus, Bob de s'en aller en faisant une grimace significative. La vérité est que Grip ne vivait plus, car ce n'est pas vivre que de passer son temps à se cogner le front dans les coins, comme une mouche contre l'abat-jour d'une lampe. Il était donc à propos qu'il partit, puisqu'il ne se décidait pas à rester. Et c'est ce qui arriva à la date du 22 juin. Ce fut pendant cette nouvelle absence de Grip que la maison Little Boy traita d'une certaine affaire, approuvée par M. O'Brien, et qui devait lui valoir de beaux bénéfices. Il s'agissait d'un jouet qu'un inventeur venait de fabriquer et dont Petit Bonhomme n'hésita pas à acheter le brevet. Ce jouet fit d'autant plus fureur que c'était la maison Little Boy & Co., c'est-à-dire deux jeunes garçons, qui en avait monopolisé la vente. Au moment de partir pour les bains de mer, toute la gentry enfantine voulut s'offrir ce cadeau, lequel était assez coûteux, et Bob, spécialement attaché à cet article, ne put suffire aux impatiences de sa clientèle. Sissi dut lui venir en aide, et la vente n'en alla pas plus mal. La branche épicerie, si achalandée pourtant, vit ses recettes dépassées par celles du rayon des jouets. En fin de compte, comme tout cela se totalisait dans la caisse des petites poches, le caissier ne s'en montra pas autrement chagrin. De ce fait seul, le capital s'accrut de quelques centaines de guinées. Très probablement même, si le début ne s'arrêtait pas, et en y ajoutant les bénéfices ordinaires de Noël, l'inventaire au 31 décembre se chiffrerait par 3 000 livres. Voilà qui permettrait au jeune patron des petites poches de donner une jolie dot à la patronne de Little Boy & Co., s'il lui prenait quelques jours l'envie de se marier. Et pourquoi ne pas avouer que Gwip, un jeune homme pas mal de sa personne et qui ferait un époux accompli, lui plaisait, bien qu'elle n'en eût rien voulu jamais dire. Il est vrai, tout le monde le savait dans la maison. Mais voilà, est-ce que Gwip se déciderait? Est-ce qu'on pouvait se passer de lui dans la marine marchande? Est-ce que les appareils évaporatoires fonctionneraient s'il n'était pas à son poste? Et puis, n'avait-il pas ri à se démettre les mâchoires lorsque petit bonhomme lui avait dit que l'envie lui viendrait peut-être de se marier? Il suffit de cet ensemble de circonstances qu'au retour du Vulcan, le 29 juillet, le premier chauffeur fût plus gêné, plus gauche, plus triste, plus sombre. Enfin, plus malheureux qu'auparavant. Son navire devait reprendre la mer le 15 septembre. Est-ce que, cette fois, il repartirait encore, lui? C'était probable, puisque petit bonhomme, pouvait-on croire à tant de méchanceté de sa part, était fermement résolu à ne point hâter un dénouement, inévitable d'ailleurs, tant que Gwip n'aurait pas pris sur lui de faire une demande officielle. Il s'agissait de sa grande sœur, après tout, elle dépendait de lui, il avait le devoir d'assurer son bonheur. Or, la première condition à imposer, condition sine qua non, c'était que Gwip abandonnât son métier de marin et consentît à entrer dans la maison en qualité d'associé. Sinon, non. Cette fois pourtant, Gwip fut si rigoureusement mis au pied du mur qu'il aurait dû se déclarer et ne pas se raidir contre lui-même. En effet, un jour qu'il tournait autour de Kate, c'était à cette digne femme qu'il se serait le plus volontiers ouvert. Kate lui dit, sans en avoir l'air, « N'avez-vous pas remarqué, Gwip, combien Sissi devient de plus en plus charmante ?»« Non, » répondit Gwip, « je n'ai pas remarqué. Pourquoi que j'aurais remarqué? Je ne regarde pas. »« Ah, vous ne regardez pas. Eh bien, ouvrez les yeux et vous verrez quelle belle fille nous avons là. Savez-vous qu'elle va avoir 19 ans ?»« Quoi ?» « Déjà ?» répliqua Gwip, qui connaissait l'âge de Sissi à une heure près. « Vous devez vous tromper, Kate. »« Je ne me trompe pas. 19 ans, et il faudra bientôt la marier. Le petit bonhomme lui cherchera un brave garçon, dans les 26 à 27 ans. Tiens, comme vous, c'est que nous voulons que ce soit quelqu'un en qui on puisse avoir toute confiance. Pas dans la marine, par exemple. Non, pas dans la marine. » Des gens qui voyagent, ils n'ont que faire de se présenter. Marin, mari, ça ne s'accorde guère. D'ailleurs, comme Sissi aura une belle dot... Elle n'en a pas besoin, dit Grip. C'est vrai, une si aimable personne, mais ça ne nuit pas pour monter un ménage. Aussi, notre jeune maître ne tardera-t-il pas à trouver... Il a quelqu'un en vue? Je le crois. Quelqu'un qui vient souvent à ce bazar? Assez souvent. Je le connais? Non, il paraît que vous ne le connaissez pas, répondit Kate en regardant Gwip qui baissait les yeux. Et ce quelqu'un plaît à Mlle Sissi? Demanda-t-il, la voix altérée, les mots lui restant dans la gorge. Dame, on ne sait trop. Avec des individus qui ne se décident pas à se prononcer... « Mon Dieu, qu'il y a de gens bêtes !» dit Gwip. « C'est mon avis !» répondit la bonne Kate. Et cette réponse, directement envoyée au chauffeur, ne l'empêcha pas de repartir le 15 septembre, 8 jours après. Enfin, lorsqu'il revint le 29 octobre suivant, il fut manifeste qu'il avait pris une grande résolution. Seulement, il se garda bien de la formuler. Il avait le temps, en résumé. Le Vulcan allait rester 2 mois au moins à son port d'attache. D'importantes réparations avaient été jugées nécessaires. Sa machine à modifier, ses chaudières à changer. Il était probable que les yeux de Gwip avaient trop dégagé de calories pendant ce dernier voyage, car les tôles avaient reçu 2 ou 3 coups de feu. 2 mois, c'est plus qu'il ne faut, surtout quand on n'a qu'un mot à prononcer. « Mademoiselle Sissi n'est pas mariée ?» avait-il demandé à Kate en entrant dans le comptoir. « Pas encore, mais ça ne tardera guère. Ça brûle !» avait répondu la bonne femme. Il va sans dire, n'est-ce pas, que du moment que le Vulcan était désarmé, le chauffeur n'avait rien à faire à bord. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'il fût souvent, pour ne pas dire toujours, au bazar de Little Boy. À moins d'y loger, il n'aurait pu y demeurer davantage. Eh bien, pendant tout ce temps, les choses n'en furent pas plus avancées. Les réparations du Vulcan ayant été achevées dans le délai sudit, son départ fut fixé à 1 semaine de là. Et ce nigo de Gwip n'avait pas encore ouvert la bouche, du moins pour dire ce qu'on attendait de lui. Or, voici qu'il se produisit un incident inattendu dans la première semaine de décembre. Une lettre adressée d'Australie à M. O'Brien en réponse à la dernière qu'il avait écrite contenait cette nouvelle. Monsieur et Madame Martin McCarthy, Murdoch, sa femme et leur fille, Sim et Pat qui les avaient rejoints, s'étaient embarqués à Melbourne pour retourner en Irlande. La fortune ne leur avait pas souri et ils revenaient au pays, aussi misérable qu'à l'époque où ils l'avaient quitté. Embarqués sur un navire d'émigrants, un navire à voile, le Queensland, dont la traversée serait sans doute longue et pénible, ils n'arriveraient pas à Queenstown avant 3 mois. Quel chagrin éprouva petit bonhomme au reçu de ces nouvelles! Les McCarthy toujours malheureux, sans travail, sans ressources. Mais enfin, il allait revoir sa famille adoptive, il lui viendrait en aide. Ah, que n'était-il 10 fois plus riche pour lui faire la situation 10 fois plus belle! Après avoir prié M. O'Brien de lui confier cette lettre, il la serra dans son bureau. Et, chose singulière, à partir de ce jour, il n'y fit plus allusion. Il semblait que, depuis la réception de ladite lettre, il évita de parler des anciens fermiers de Kerouan. Cette nouvelle eut son contre-coup sur Gwip. Qui s'y serait attendu? Oh, cœur humain, tu ne changes donc pas, même dans la poitrine d'un premier chauffeur. Ces McCarthy sur le point de revenir, ces 2 frères, Pat et Sim, qui devaient être 2 superbes garçons, que petit bonhomme aimait tant, presque ses frères. Qui sait si à l'un d'eux il ne voudrait pas donner celle qui était presque sa sœur? Bref, Gwip devint jaloux, affreusement jaloux. Et un certain 9 décembre, il était résolu à en finir. Lorsque, ce matin-là, petit bonhomme, le prenant à part, lui dit « Viens dans mon bureau, Gwip, j'ai à te parler. » Gwip, tout pâle, avait-il le pressentiment de quelque grave éventualité, suivit petit bonhomme. Dès qu'ils furent seuls, assis en face l'un de l'autre, le patron des petites poches dit à Gwip d'un ton sec « Je vais probablement entreprendre une affaire assez importante » et j'aurai besoin de ton argent. « Enfin !» répondit Gwip. « Ce n'est pas trop tôt. De combien que t'as besoin ?»«
De tout ce que tu as déposé à la caisse d'épargne. »«
Prends ce qu'il te faut. »«
Voici ton livret. Signe, afin que je puisse toucher dès aujourd'hui. »
Gwip ouvrit le livret et signa. « Quant aux intérêts, » reprit petit bonhomme, « je ne t'en parlerai pas. »«
Ça ne vaut pas la peine. »
Parce que, à dater de ce jour, tu fais partie de la maison, Little Boy & Co.
En quelle qualité ?
En qualité d'associé.
Mais mon navire ?
Tu demanderas ton congé.
Mais mon métier ?
Tu le quittes.
Pourquoi que je le quitte ?
Parce que tu vas épouser Sissi.
Je vais épouser, moi, Mlle Sissi ?
Répéta Gwip qui n'avait pas l'air de comprendre.
Oui, c'est elle qui le veut.
Ah, c'est elle qui...
Oui,
et comme tu le veux aussi.
Moi ? Je le veux ?
Gwip ne savait pas ce qu'il répondait. Il n'entendait plus un mot de ce que lui disait petit bonhomme. Il prit son chapeau, le mit sur sa tête, l'ôta, le déposa sur une chaise et s'assit dessus, sans même s'en apercevoir.
« Allons, lui dit petit bonhomme, tu seras obligé d'en acheter un autre pour la noce. »
Pour sûr, il en achèterait un autre, mais il ne sut jamais comment son mariage s'était décidé. Pendant une vingtaine de jours, personne ne put le tirer de son ahurissement, pas même Sissi.
« Bah, cela passerait, après la cérémonie. »
Ce qui est avéré, c'est que le 24 décembre, la veille de Noël, un beau matin, Gwip endossa un vêtement tout noir, comme s'il allait à un deuil. Sissi, une robe blanche, comme si elle allait au bal. Monsieur O'Brien, petit bonhomme, Bob et Kate mirent leurs habits du dimanche, bien qu'on fût au vendredi. Puis, deux voitures vinrent chercher toutes ces personnes à la porte des petites poches pour les conduire à la chapelle catholique et romaine de Bedford Street. Et lorsque Gwip et Sissi sortirent de cette chapelle, une demi-heure plus tard, ne voilà-t-il pas qu'ils étaient mariés tous les deux ? Et ce qui ne surprendra personne, l'un avec l'autre. À cela près, rien n'était changé quand la joyeuse compagnie rentra au bazar de Little Boy & Co. Et la vente fut reprise, car ce n'est pas la veille du Christmas qu'on eût fermé à sa nombreuse clientèle un bazar si bien achalandé. Chapitre 14. La mer de trois côtés. Le 15 mars, environ 3 mois après le mariage de Gwip et de Sissi, le schooner Dowis sortait du port de Londonderry et mettait en mer par une jolie brise du nord-est. Londonderry est la capitale du comté de ce nom, qui confine au Donegal, dans la partie septentrionale de l'Irlande. Les habitants de Londres disent Londonderry, parce que ce comté appartient presque tout entier aux corporations de la capitale des îles britanniques, par suite de confiscations anciennes, et parce que ce fut l'argent londonien qui releva la ville de ses ruines. Mais Paddy, faute de pouvoir protester autrement, l'appelle simplement Derry, et on ne saurait l'en blâmer. Le chef-lieu de ce comté est une importante ville, située près de la rive gauche et à l'embouchure de la Foyle. Ses rues sont larges, aérées, proprement entretenues, sans grande animation, bien que la population comprenne 15 000 habitants. On y voit des promenades sur l'emplacement de ces anciens remparts, une cathédrale épiscopale au sommet de la colline urbaine, et aussi quelques vestiges, à peine reconnaissables, de l'abbaye de Saint-Coulouban et du Temple Mort, remarquable édifice du XIIe siècle. Le mouvement du port, qui est considérable, comprend l'exportation de quantités de marchandises, ardoises, bière, bétail, et, il faut bien le dire, de quantité d'émigrants. Et combien en est-il de ces malheureux Irlandais, chassés par la misère, qui reviennent au pays natal? Il n'y a rien d'étonnant, sans doute, à ce qu'un schooner, autrement dit une goélette, ait quitté le port de Londonderry, puisque des centaines de navires descendent ou remontent quotidiennement les trois goulets de la baie de Lough-Foyle. Et pourquoi aurait-on remarqué le départ de la Dowis au milieu d'un va-et-vient maritime qui se chiffre annuellement par 600 000 tonnes ? Cette observation est juste. Mais si cette goélette mérite d'attirer notre attention spéciale, c'est qu'elle porte César et sa fortune. César, c'est petit bonhomme. Sa fortune,
c'est la cargaison qu'elle transporte à Dublin.
Et à quel propos le jeune patron de Little Boy & Co. se trouve-t-il à bord de la Doris?
Voici ce qui avait eu lieu.
Après le mariage de Sissy et de Gwip, les petites poches avaient été très occupées en vue des affaires du nouvel an. Inventaire de fin d'année, affluence de la clientèle toujours plus considérable, établissement de nouveaux rayons dans le bazar, etc. Gwip s'était activement mis à la besogne, bien qu'il ne fût pas encore remis de son étonnement matrimonial. D'être le mari de cette charmante Sissy, cela lui paraissait un songe qui s'effacerait au réveil.
« Je t'assure que tu es marié ?» lui répétait Bob.
« Oui, il me semble ben que oui, Bob, et pourtant je ne puis le croire des fois. »
L'année 1887 débuta donc dans d'excellentes conditions. Au total, petit bonhomme n'aurait eu à désirer que la continuation de cet état de choses, sans la grave préoccupation qui ne le quittait pas. Assurer le sort des McCarthy lorsque ces pauvres gens remettraient le pied en Irlande. Avait-on eu des nouvelles du Queensland sur lequel la famille s'était embarquée à Melbourne? Non. Et pendant les deux premiers mois de l'année, la lecture assidue des correspondances maritimes n'avait rien appris. Lorsque, à la date du 14 mars, on put lire ces lignes dans le Chipping Gazette. Le steamer Burnside a rencontré le voilier Queensland le 3 courant par le travers de l'Assomption. Les bâtiments à voile qui viennent des mers du Sud ne peuvent abréger leur parcours en franchissant le canal de Suède, car il est difficile, sans l'impulsion d'une machine, de remonter la mer Rouge. Il s'ensuit que, pour la traversée d'Australie en Europe, le Queensland avait dû suivre la route du Cap de Bonne-Espérance, et qu'à cette époque, il se trouvait encore en plein océan Atlantique. Si le vent ne lui était pas favorable, il emploierait 15 jours ou 3 semaines à rallier Queenstown. Donc, nécessité de prendre patience jusque-là. Cependant, cela ne laissait pas d'être rassurant, cette rencontre du Queensland et du Burnside. À coup sûr, petit bonhomme avait été bien inspiré en lisant ce numéro de la Chipping Gazette, et d'autant mieux qu'en parcourant les nouvelles commerciales, il remarqua une annonce ainsi conçue. « Londonderry, 13 mars. Après-demain, 15 courants, sera mise en vente aux enchères publiques la cargaison du schooner Dowis de Hambourg, comprenant 150 tonnes de marchandises diverses, pipes d'alcool, barriques de vin, caisses de savon, boucaux de café, sacs d'épices, le tout à la requête de messieurs Harrington frères, créanciers, etc. » Petit bonhomme demeura pensif devant cette annonce. La pensée lui était venue qu'il y avait peut-être là une opération fructueuse à tenter. Dans les circonstances où la Doris devait être vendue, cette cargaison tomberait à vil prix. N'était-ce pas une occasion d'acheter ces divers articles de débit courant pour la plupart? Ces pipes d'alcool, ces barriques de vin, qui pourraient être ajoutées au commerce d'épicerie. Enfin, cela trotta tellement dans la tête de notre héros qu'il alla consulter M. O'Brien. L'ancien négociant lut l'annonce, écouta les raisonnements du jeune garçon, réfléchit en homme qui ne s'engage jamais à la légère, et finalement répondit « Oui, il y a là une affaire ». Toutes ces marchandises, si on se les procure à bon marché, peuvent se revendre avec gros bénéfices, mais à deux conditions. C'est qu'elles soient d'excellente qualité et qu'on les obtienne à 50 ou 60% au-dessous des cours.
« Je pense comme vous, monsieur O'Brien, » répondit petit bonhomme, « et j'ajoute qu'on ne peut se prononcer tant qu'on n'a pas vu la cargaison de la Doris. » Je partirai ce soir pour Londonderry.
Tu as raison, et je t'accompagnerai, mon garçon, répondit M. O'Brien.
Vous auriez cette complaisance?
Oui, je veux examiner moi-même. Je m'y connais à ces marchandises-là.
J'en ai acheté et vendu toute ma vie.
Je vous remercie, monsieur O'Brien, et je ne sais comment vous prouver ma reconnaissance.
Essayons de tirer un parti avantageux de cette affaire. Je n'en demande pas plus.
Il n'y a pas de temps à perdre, reprit petit bonhomme. La vente est affichée pour après-demain, sans remise.
Eh, je suis prêt, mon garçon. Mon sac de voyage à prendre, ce n'est pas long. Demain, nous procéderons avec soin à l'examen de cette cargaison de la Doris. Après-demain, nous l'achèterons, ou nous ne l'achèterons pas, suivant sa qualité et son prix. Et le soir, en route pour Dublin.
Petit bonhomme vint aussitôt prévenir Gwip et Sissi qu'il comptait partir dans la soirée pour Londonderry. Une opération qu'il se proposait de faire avec l'approbation de M. O'Brien. Le plus gros de son capital y serait engagé, sans doute, mais à bon escient. Il leur confiait pour 48 heures la direction du bazar des petites poches. Cette séparation, quelque courte qu'elle dût être, était si inopinée que Gwip et Bob s'en montrèrent tout mari, le garçonnet surtout. C'était la première fois depuis 4 ans et demi que petit bonhomme et lui allaient se quitter. Deux frères n'eussent pas été attachés par un lien plus étroit. Quant à Sissi, elle ne voyait pas son cher enfant s'éloigner sans éprouver un serrement de cœur. Et pourtant, de s'absenter 2 ou 3 jours, et il n'y avait pas là de quoi s'inquiéter. En ce qui concernait l'affaire elle-même, petit bonhomme, conseillé par M. O'Brien, ne ferait rien qui fût de nature à compromettre sa situation, à le lancer dans une spéculation hasardeuse. Les deux négociants, le vieux et le jeune, prirent le train à 10 heures du soir. Cette fois, petit bonhomme dépassa Belfast, la capitale du comté de Down, Belfast où il avait retrouvé sa chère Sissi. Le lendemain, à 8 heures du matin, nos deux compagnons descendaient à la gare de Londonderry. Ce que sont les hasards de la destinée. À Londonderry, où allait s'accomplir un acte important de sa carrière commerciale, petit bonhomme n'était pas à 30 miles de ce hameau de Windhoek, perdu au fond du Donegal, où sa vie avait débuté par tant de misères. Une 12aine d'années s'était écoulée, et il avait fait son tour d'Irlande, livré à quelles vicissitudes, à quelles alternatives de bonheur et de malheur. Cette réflexion lui vint-elle ? Observa-t-il ce rapprochement singulier ? Nous ne savons. Mais qu'il nous soit permis de l'observer pour lui. La cargaison de la Doris fut l'objet d'un très sévère examen de la part de M. O'Brien. En qualité et en sorte, les divers articles qui la composaient convenaient parfaitement au patron des petites poches. Si elle lui était attribuée à bas compte, il pouvait réaliser un bénéfice considérable et quadrupler à tout le moins son capital. L'ancien négociant n'eut pas hésité à entreprendre l'opération pour son propre compte. Il conseilla même à petit bonhomme de devancer la vente aux enchères, en faisant des offres aimables à messieurs Harrington frères. Le conseil était bon, il fut suivi. Petit bonhomme s'aboucha avec les créanciers de la Doris. Il obtint la cargaison à un prix d'autant plus avantageux qu'il offrait de payer comptant. Si la jeunesse de l'acheteur ne laissa pas de surprendre messieurs Harrington, l'intelligence avec laquelle il discuta ses intérêts leur parut plus surprenante encore. D'ailleurs, monsieur O'Brien se portant garant, l'affaire alla toute seule et fut réglée, séance tenante, par un chèque sur la Banque d'Irlande. 3 500 livres, à peu près toute la fortune de petit bonhomme. Tel fut le prix auquel il devint acquéreur de la cargaison de la Doris. Aussi, l'opération terminée, éprouva-t-il une certaine émotion dont il ne chercha point à se défendre. En ce qui concerne le transport de cette cargaison à Dublin, le plus simple était d'y employer la Doris, de manière à éviter le transbordement. Le capitaine ne demandait pas mieux, du moment que son fret lui serait assuré. Et, avec un vent convenable, la traversée ne durerait pas plus de 2 jours. Ce point décidé,
M. O'Brien et son jeune compagnon n'avaient plus qu'à reprendre le train du soir. De cette façon, leur absence n'aurait pas dépassé 36 heures. C'est alors que Petit Bonhomme eut une idée. Il proposa à M. O'Brien de revenir à Dublin sur la Doris.
« Je te remercie, mon garçon, » répondit l'ancien négociant. « Mais, je l'avoue, la mère et moi, nous n'avons jamais pu nous mettre d'accord. Et c'est elle qui finit toujours par avoir raison. Après tout, si le cœur t'en dit...
« Cela me tente, monsieur O'Brien. Pour un si court trajet, il n'y a pas grand risque, et j'aimerais autant ne pas abandonner ma cargaison. »
Il suit de là que monsieur O'Brien revint seul à Dublin, où il arriva le lendemain aux premières lueurs du jour. C'était à ce moment même que la Doris sortait du chenal de la Foyle et se dirigeait vers les Trois Goulets qui met la baie en communication avec le canal du Nord. La brise était favorable, venant du nord-ouest. Si elle persistait, la traversée serait excellente. Le schooner pourrait naviguer le long du littoral, où la mer, abritée par les hautes terres, est toujours plus calme. Néanmoins, dans ce mois de mars, au milieu de ces parages de la mer d'Irlande, aux approches de l'équinoxe, on n'est jamais sûr du temps qu'il fera. La Doris était commandée par un capitaine au cabotage nommé John Clear, ayant sous ses ordres un équipage de 8 matelots. Tous paraissaient fort entendus à leur besogne, et ils avaient une grande habitude des côtes d'Irlande. Aller de Londonderry à Dublin, ils l'eussent fait les yeux fermés. La Doris sortit de la baie, toute voile dehors. Une fois en mer, Petit Bonhomme put apercevoir, vers l'ouest, le port d'Inishaven, à l'entrée d'une baie couverte par la pointe du Donegal, et au-delà, le long promontoire terminé par le Cap Malin, le plus avancé de ceux que l'Irlande projette vers le nord. Cette première journée s'annonçait heureusement. Ce fut une jouissance pour notre jeune garçon de se sentir emporté sous les ailes de la Doris, à travers cette mer un peu houleuse au large, très maniable d'ailleurs, avec l'allure du grand largue. Pas le moindre malaise. Un mousse n'eût pas eu le cœur plus marin. Cependant, une pensée lui traversait parfois l'esprit. Il songeait à cette cargaison renfermée dans les flancs de la goélette, à ces abîmes qui n'auraient qu'à s'entr'ouvrir pour engloutir toute sa fortune. Mais pourquoi cette préoccupation que ne justifiait aucun fâcheux pronostic? La Doris était un solide bâtiment, excellent voilier, bien dans la main de son capitaine, et qui se comportait crânement à la mer. Quel regret que Bob ne fût pas à bord! Quelle joie un co aurait éprouvé à naviguer pour de vrai cette fois, et non plus sur un volcan amarré au quai de Cork ou de Dublin! Si Petit Bonhomme avait prévu qu'il effectuerait son retour par mer, il eût certainement emmené Bob, et Bob aurait été au comble de ses vœux. Il est admirable ce littoral qui se prolonge sur la limite du comté d'Antrim, montrant ses blanches murailles de calcaire, ses profondes cavernes, qui suffiraient à loger tout le personnel de la mythologie gaélique. Là se dressent ces tuyaux de cheminée dont la fumée n'est formée que de l'écume des embruns, et ces falaises rocheuses, tellement semblables à des murs de forteresses avec créneaux et machicoulis, que les Espagnols de l'Armada les bâtirent à coups de canon. Là se développe cette chaussée des géants, faite de colonnes verticales, monstrueux pilotis de basalte, auxquels les violents ressacs impriment une sonorité métallique, et dont on compte plus de 40 000, à en croire les touristes arithméticiens. Tout cela était merveilleux d'aspect. Mais la Doris se garda d'approcher ces lignes de récifs, et vers 4 heures de l'après-midi, laissant au nord-est le mule écossais de Cantyre, à l'ouvert de Clyde Bay, elle donnait entre le Cap Fer et l'île Rathlin, afin d'embouquer le canal du Nord. La brise de nord-ouest se maintint jusqu'à 3 heures de l'après-midi, en dissolvant les nuages des hautes zones de l'atmosphère. Tandis que le schooner prolongeait le littoral à 2 ou 3 milles de distance,
c'est à peine s'il éprouvait un léger mouvement de roulis, le tangage étant à peu près insensible. Petit bonhomme n'avait pas quitté le pont un instant. C'est là qu'il avait déjeuné, c'est là qu'il dînerait, c'est là qu'il comptait rester, tant que le froid de la nuit ne l'obligerait pas à regagner la chambre du capitaine. Décidément, cette première traversée maritime ne lui laisserait que d'excellents souvenirs, et il se félicitait d'avoir eu cette bonne idée d'accompagner sa cargaison. Ce ne serait pas sans quelque fierté qu'il entrerait au port de Dublin avec la Dorwis, et il ne doutait pas qu'à ce moment, Gwip et Sissi, Bob et Kate, prévenus par M. O'Brien, ne fussent à l'extrémité du quai, et même sur le Southwall, ou peut-être au bout du musoir, à la base du phare de Paulbeg. Entre 4 et 5 heures du soir, de gros pelotons de vapeur commencèrent à s'arrondir vers l'est. Le ciel prit bientôt mauvaise apparence. Ces nuages, alinéamment très durs, à contours massifs, que poussait une brise contraire, s'élevaient avec rapidité. Aucune éclaircie n'indiquait à leur base que le pied du vent dût se dégager avant la nuit. « Veille au grain !» Il semblait que cet avertissement fût écrit là-bas, à l'extrême périphérie de la mer. John Clear le comprit, car son front se plissa au moment où il interrogeait attentivement l'horizon. « Eh bien, capitaine ?» demanda petit bonhomme, que l'attitude de John Clear, non moins que celle des matelots, n'avait pas laissé de surprendre. « Ça ne me plaît guère, » répondit le capitaine en se retournant vers l'ouest. En effet, la brise régnante mollissait déjà. Les voiles, dégonflées, commençaient à battre sur la mâture. Les écoutes de la misaine et de la brigantine étaient largues. Les focs ralinguaient, tandis que le hunier et le flèche recevaient les derniers souffles venus du couchant. La Dorwis, moins appuyée, subit alors un violent roulis, sous l'influence d'une longue houle qui se propageait du large. La barre n'ayant que peu d'action par défaut de marche, gouverner devenait difficile. Cependant, petit bonhomme ne souffrit pas trop de ce roulis, qui est surtout pénible par les mers calmes, et il ne descendit point dans la cabine, bien que John Clear l'y eût engagé. Entre-temps, les risées de l'est arrivaient, plus fréquentes, plus rapides, soulevant l'eau pulvérisée à la surface du canal. Sur les 2/3 de l'horizon, les nuages s'effilaient en longs stratus que les rayons du soleil, à son déclin, rendirent plus noirs par opposition. Aspect très menaçant. Le capitaine Clear prit donc les précautions que commandait la prudence. Il fit carguer le flèche et le hunier, ne gardant que sa trinquette, son petit foc, et l'équipage installa à l'arrière la voile de cap, sorte de tourmentin indispensable au navire qui veut tenir tête à la tempête. Auparavant, le schooner s'était, par bonheur, élevé à 2 ou 3 milles du littoral, dans la crainte, s'il ne pouvait gagner au vent, d'être jeté à la côte lorsque la bourrasque tomberait à bord. Aucun marin n'ignore qu'à cette époque de l'équinoxe, les troubles de l'atmosphère se développent avec une extrême violence, surtout dans ces parages du nord. Aussi, la nuit n'était-elle pas close que la rafale assaillait la Dorwis, en déployant une impétuosité que ne peuvent imaginer ni admettre ceux qui n'ont jamais été témoins de ces luttes atmosphériques. Le ciel s'était assombri profondément après le coucher du soleil. L'espace s'emplit de sifflements aigus au milieu desquels les goélands et les mouettes fuyaient éperdus vers la terre. En un instant, le schooner fut ébranlé de la quille à la pomme des mâts. La mer, comme on dit, venait de 3 côtés, c'est-à-dire que les lames à crête déferlantes, contrariées dans leur ondulation, brouillées par la bourrasque, se précipitèrent à la fois sur l'avant et sur les flancs de la Dorwis, en la couvrant d'écume. Tout fut bouleversé depuis le cabestan jusqu'à la roue du gouvernail, et il devint très difficile de se tenir sur le pont. L'homme de barre avait dû s'attacher, les matelots s'abritaient le long des parois.
« Descendez, monsieur, » dit John Clear à petit bonhomme.
« Capitaine, permettez-moi. »
« Non, en bas, vous dis-je, ou vous serez emporté par un coup de mer. »
Petit bonhomme obéit. Il regagna la cabine, très inquiet, moins pour lui-même que pour cette cargaison menacée. Sa fortune entière à bord d'un navire en péril, tout ce bien qu'il ne pourrait faire si elle était perdue. Les choses prenaient une tournure très grave. En vain, le capitaine avait-il tenté de mettre la Dowis en cap courante, de manière à présenter son avant aux lames, afin de s'écarter de la côte ou d'en rester à bonne distance. Par malheur, vers 1 heure du matin, le petit phoque et le tourmentin furent emportés. 1 heure après, la mâture vint en bas. Brusquement, la Dowis se coucha sur tribord, et comme sa cargaison s'était déplacée dans la cale, ne pouvant se relever, elle risquait d'emplir par-dessus les pavois. Petit bonhomme, qui avait été jeté contre les cloisons de la cabine, se redressa à tâtons. En ce moment, pendant une accalmie, des cris arrivèrent jusqu'à lui. Il se faisait un grand tumulte sur le pont. Avait-il donc été défoncé par un coup de mer? Non. John Clear, dans l'impossibilité de redresser la goélette et craignant qu'elle ne vînt à sombrer, faisait ses préparatifs pour l'abandonner. Malgré l'inclinaison qui rendait la manœuvre très dangereuse, on avait mis la chaloupe à la mer. Il fallait s'y embarquer sans perdre une minute. Petit bonhomme le comprit, lorsqu'il s'entendit appeler par le capitaine à travers le capot entrebâillé. « Abandonner la goélette et tout ce qu'elle renfermait dans la cale? Non, cela ne se pouvait pas. N'y eut-il qu'une seule chance de la sauver, petit bonhomme était résolu à courir cette chance, même au péril de sa vie. Il connaissait la loi maritime. Si la mer ne l'engloutit pas, un navire abandonné appartient au premier qui monte à bord. Le code anglais est formel, qui déclare propriété du sauveteur tout bâtiment trouvé en mer sans son équipage. Les cris redoublaient, John Clear appelait toujours. « Où est-il donc ? » répétait-il. « Nous allons couler !» criaient les matelots.
« Mais ce garçon, on ne peut attendre !»«
Ah, je le trouverai !»
Et le capitaine se précipita par l'échelle du capot. Petit bonhomme n'était plus dans la cabine. En effet, presque sans raisonner, guidé par une sorte d'instinct, fermement décidé à ne point quitter le bord, il s'était introduit à l'intérieur de la cale par une des cloisons que le choc d'une lourde caisse venait de briser.
« Mais où est-il ? Où est-il ? » répétait le capitaine en l'appelant de toutes ses forces.
« Il sera monté sur le pont, » dit un matelot.
« Il aura été jeté à la mer, » ajouta un autre.
« Nous coulons ! Nous coulons !»
Ces propos furent échangés de l'un à l'autre au milieu d'un effarement épouvantable. En effet, la Dowis venait de s'incliner sous un formidable coup de roulis à faire craindre qu'elle ne se retournât, la quille en l'air. Et il n'y avait plus à s'attarder. Puisque petit bonhomme ne répondait pas, c'est qu'il était remonté sur le pont sans que personne l'eût aperçu au milieu de cette horrible obscurité. C'est qu'il avait été emporté par-dessus le bord. Et cela n'était que trop vraisemblable. Le capitaine Clear reparut, juste comme la goélette plongeait plus profondément entre le creux de 2 énormes lames. Son équipage et lui se précipitèrent dans la chaloupe, dont la mare fut aussitôt larguée. Si peu d'espoir que l'embarcation eût de résister à cette mer furieuse, c'était l'unique chance de salut. Et elle s'éloigna à force d'aviron, afin de ne point être entraînée dans le remous du schooner au moment où il sombrerait. La Dowis était sans capitaine, sans équipage. Mais ce n'était pas un navire abandonné, ce n'était pas une épave, puisque petit bonhomme n'avait pas quitté le bord. Seul, il était seul, menacé d'être englouti d'un instant à l'autre. Il ne désespéra pas. Il se sentait soutenu par un extraordinaire pressentiment de confiance. Remonté sur le pont, il se laissa glisser jusqu'au pavois sous le vent, à un endroit où les dallos ne donnaient pas entrée aux lames. Quelle pensée l'assaillir! C'était pour la dernière fois, peut-être, qu'il songeait à ceux qu'il aimait, au McCarthy, à cette famille qu'il s'était faite avec Whip, Sissy, Bob, Kate, M. O'Brien, et il implora le secours de Dieu, le priant de le sauver pour eux comme pour lui. La bande de la Dawis ne s'accentuait pas, ce qui éloignait tout danger immédiat. Par bonheur, la coque, très solidement construite, avait résisté. Aucune voie d'eau ne s'était déclarée à travers le bordage. Si la goélette se trouvait sur la route de quelque navire, si des sauveteurs en réclamaient la propriété, petit bonhomme serait là pour revendiquer sa cargaison restée intacte, que les coups de mer n'avaient point atteinte. La nuit s'acheva. Cette affreuse tempête diminua de violence aux premières lueurs du soleil. Toutefois, la mer ne tomba pas, troublée d'une houle persistante. Petit bonhomme porta ses regards sous le vent, à l'opposé du soleil, dans la direction de la terre. Rien en vue. Nul contour d'une côte vers l'ouest. Il était évident que la Dawis, poussée par les rafales de la nuit, devait être sortie du canal du nord et se trouvait actuellement en pleine mer d'Irlande, peut-être par le travers de Dundalk ou de Drogheda. Mais à quelle distance? Et au large, pas un bâtiment, pas une barque de pêche. D'ailleurs, un navire eût-il été là, qu'il lui eût été difficile d'apercevoir cette coque renversée, le plus souvent plongée dans l'entre-deux des lames. Et pourtant, l'unique chance de salut était d'être rencontrée. Si elle continuait à dériver vers l'ouest, la Dawis se perdrait corps et bien sur ces récifs qui bordent le littoral. Mais n'était-il pas possible de lui imprimer une direction, de manière à gagner les parages fréquentés des pêcheurs? En vain, petit bonhomme essaya-t-il d'installer un morceau de toile sur un épars maintenu par des cordes. Il ne pouvait donc compter sur ses propres efforts. Il était entre les mains de Dieu. La journée s'écoula sans que la situation se fût aggravée. Petit bonhomme ne craignait plus que la Dawis s'engloutît, puisque son degré d'inclinaison sur tribord semblait ne pas devoir être dépassé. Il n'y avait qu'une chose à faire, observer le large, avec la chance de voir apparaître un navire. En attendant, notre jeune garçon mangea afin de reprendre des forces. Et pas un instant, nous insistons sur ce point, pas un instant, ayant conservé la plénitude de son intelligence, il ne sentit le désespoir s'emparer de lui. Il ne voyait qu'une chose, c'est qu'il défendait son bien. À 3 heures de l'après-midi, une fumée se déroula dans l'est. Une demi-heure après, un grand steamer se montrait très distinctement, se dirigeant vers le nord et tenant route à 5 ou 6 milles de la Dawis. Petit bonhomme fit des signaux avec un pavillon au bout d'une gaffe. Ils ne furent pas aperçus. De quelle extraordinaire énergie était-il donc doué, cet enfant, puisqu'il ne se découragea même pas alors? Le soir arrivant, il ne pouvait plus compter sur une autre rencontre ce jour-là. Aucun indice ne lui permettait de penser qu'il fût proche de la terre. La nuit, épaissie par les nuages, sans lune, serait fort obscure. Cependant, le vent n'accusait aucune tendance à fraîchir et la mer était tombée depuis le matin. Comme la température était assez basse, le mieux était de descendre dans la cabine. Inutile de rester au dehors, puisqu'on ne pouvait rien distinguer, même à une demi-encablure. Très fatigué par ses heures d'angoisse, incapable de résister au sommeil, petit bonhomme retira la couverture du cadre sur lequel il n'aurait pu se coucher à cause de l'inclinaison, et après s'en être enveloppé le long de la cloison, il ne tarda pas à s'endormir. Son sommeil dura une grande partie de la nuit. Le jour commençait à poindre lorsqu'il fut réveillé par des vociférations proférées au dehors. Il se redressa, il écouta. La Dawis était d'elle donc près de la côte? Un navire l'avait-il rencontré au lever du soleil? À nous, les premiers !» criaient des voix d'hommes. « Non, à nous !» répondirent d'autres voix. Petit bonhomme ne tarda pas à comprendre ce qui se passait. Nul doute que la Dowis eût été aperçue dès l'aube naissante. Des équipages s'étaient hâtés de l'accoster et maintenant ils se disputaient à qui elle appartiendrait. Les voici qui se sont hissés sur la coque. Ils ont envahi le pont, ils en viennent aux mains. Des coups s'échangent entre les sauveteurs. Petit bonhomme n'aurait eu qu'à se montrer pour mettre les deux parties d'accord. Il s'en garda expressément. Ses hommes se fussent tournés contre lui. Il n'aurait pas hésité à le jeter par-dessus le bord, afin d'éviter toute réclamation ultérieure. Sans perdre un instant, il fallait se cacher. Aussi allait-il se blottir à fond de cale au milieu des marchandises. Quelques minutes plus tard, le tumulte avait cessé. Preuve que la paix venait d'être faite. On s'était entendu pour partager le produit de la cargaison, après avoir conduit au port le navire abandonné. Les choses en effet s'étaient passées de la sorte. Deux chaloupes de pêche, sorties au petit jour de la baie de Dublin, avaient aperçu le schooner dérivant à 3 ou 4 milles au large. Les équipages s'étaient aussitôt dirigés vers cette coque, à demi chavirée, luttant de vitesse pour l'atteindre, car la coutume, ayant force de loi, est que l'épave appartient à celui qui met le premier la main sur elle. Or, les embarcations étaient arrivées en même temps. De là, querelles, menaces, coups, et finalement, accord sur le partage du butin. Et ils auraient fait là une belle marée, ces redoutables pêcheurs du littoral. À peine petit bonhomme s'était-il réfugié dans la cale que les patrons des deux chaloupes s'affalèrent par l'échelle de capot afin de visiter la cabine. Et que l'on juge si petit bonhomme dut s'applaudir de s'être soustrait à leurs regards lorsqu'il les entendit échanger ces paroles. « Il est heureux qu'il n'y ait pas eu un seul homme à bord du schooner. Oh, celui-là n'y serait pas resté longtemps !» Et en effet, ces sauvages n'eussent point reculé devant un crime pour s'assurer la propriété de l'épave. Une demi-heure après, la coque de la Dowis était mise à la remorque des deux chaloupes qui forcèrent de voile et d'aviron dans la direction de Dublin. À 9h30, les pêcheurs se trouvaient à l'ouvert de la baie. Comme, avec la mer descendante, il leur eût été difficile d'y faire entrer la Dowis, ils se dirigèrent vers Kingstown, et bientôt ils accostaient l'estacade. Il y avait là rassemblement de populaires. L'arrivée de la Dowis ayant été signalée, M. O'Brien, Gwip et Sissy, Bob et Kate, prévenus du sauvetage, avaient pris le train de Kingstown et se trouvaient sur l'estacade. Quelle fut leur angoisse en apprenant que les pêcheurs ne ramenaient qu'une coque abandonnée. Petit bonhomme n'était pas à bord. Petit bonhomme avait péri. Et tous, Gwip et Sissy, Bob et Kate, de pleurer à chaudes larmes. En ce moment, arriva l'officier de port, chargé de l'enquête relative au sauvetage, ayant qualité pour attribuer à qui de droit le navire avec la cargaison qu'il renfermait. C'était un coup de fortune pour les sauveteurs. Soudain, hors du capot, apparaît un jeune garçon. Quel cri de joie les siens ont poussé! Et par quel cri de fureur les pêcheurs leur ont répondu! En un instant, petit bonhomme est sur le quai. Sissy, Gwip, Monsieur O'Brien, tous l'ont serré dans leurs bras. Et alors, s'avançant vers l'officier de port, « La Dowis n'a jamais été abandonnée, » dit-il d'une voix ferme, « et ce qu'elle contient est à moi. » En effet, il l'avait sauvée, cette riche cargaison, rien que par sa présence à bord. Toute discussion eût été inutile. Le droit du petit bonhomme était incontestable. La propriété de la cargaison lui fut conservée, comme celle de la Dowis restait au capitaine Clear et à ses hommes, qui avaient été recueillis la veille. Les pêcheurs devraient se contenter de la prime qui leur était légitimement due. Quelle satisfaction pour tout ce monde de se retrouver, une heure après, dans le bazar de Little Boy & Co. C'est qu'elle avait été singulièrement périlleuse, la première traversée de petit bonhomme. et pourtant, Bob de lui dire « Ah, oh, que j'aurais voulu être avec toi à bord !»
Tout de même, Bob, tout de même,